C'était au mois de mars, au moment du début de la crise en Libye, là, où beaucoup de gens fuyaient le pays vers l'Égypte ou vers la Tunisie. Donc moi, j'étais dans le camp qui a été établi à la frontière de la Tunisie avec la Libye, le camp de Choucha, qui est un petit camp qui a été installé très rapidement, un petit camp où il y a eu jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 personnes au maximum, et qui était vraiment surtout un camp de passage, c'est-à-dire que les personnes qui arrivaient dans ce camp n'y restaient pas nécessairement très longtemps. En fait, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie de personnes qui allaient rester là-bas très longtemps, et en fait, qui y sont toujours. Et ce sont des personnes, par exemple, originaires de Somalie, originaires d'Irak, pour qui il était impossible d'organiser un retour au pays d'origine. Et donc là, on commence à voir le phénomène assez typique dans les camps de réfugiés, c'est l'installation dans la durée. Donc une situation qui normalement devrait être transitoire, la vie dans un camp, c'est pas une solution de vie, devient en fait de facto, pour des milliers de personnes, hein, des centaines seulement dans ce petit camp à Choucha, mais pour des dizaines ou des centaines de milliers dans d'autres camps dans le monde, devient une situation durable. Avec là, très vite, une sorte de désespoir qui s'installe, lié à une impossibilité de voir une issue à la situation. Et puis, tout ça dans un climat aussi d'assistance, de dépendance par rapport à une aide, alors qu'on a là des personnes qui travaillaient avant, ou qui étaient soit agriculteurs, soit ouvriers, et qui sont capables, normalement, de prendre en charge leur vie et celle de leur famille, et qui se retrouvent, pour une durée dont on ne peut jamais dire combien longue elle va être, dans une situation de dépendance et d'attente et finalement de désespoir.
Est-ce que vous pouvez justement parler de la vie dans ces camps? Qu'est-ce que font les gens de leur journée? Quelles sont leurs difficultés? Quelle est l'ambiance?
Alors dans un camp comme celui-là qui était tout neuf, j'allais dire, et tout fraîchement installé, la vie s'installe, c'est de l'assistance humanitaire qui se met en place, c'est-à-dire des organisations sont là pour distribuer à manger, pour distribuer de l'eau, pour installer des toilettes, des douches, etc. Organiser le camp, c'est-à-dire aussi choisir les emplacements, regrouper les personnes par nationalité par exemple, ou bien faire en sorte que les femmes seules avec des enfants soient dans une zone plus protégée du camp. Et puis finalement, la journée dans le camp, c'est beaucoup d'oisiveté, d'attente. D'attente pour la prochaine distribution, d'attente que les sanitaires soient libérés, d'attendre la distribution suivante ensuite, d'aller faire la queue devant les tentes, soit du HCR pour savoir comment la situation va évoluer sur un plan juridique ou sur l'évolution de la situation, soit de faire la queue devant la tente où on peut donner des soins médicaux. Et donc on est dans l'attente en fait. Et attendre pendant toute la journée, et puis finalement ça engendre de la frustration, parfois de la violence aussi, de l'agressivité. Donc la journée se rythme assez rapidement et finalement chaque journée se ressemble et on attend, on va d'une distribution à l'autre et puis on fait des longues files d'attente pour avoir accès aux services qui sont organisés par les associations et qui sont bien organisés hein, dans l'ensemble, à part au début il y a évidemment toujours un peu d'ajustement, il y a des choses qui manquent, il y a les douches qui ne fonctionnent pas encore, etc. Mais ça finalement on sait faire et ça finalement ça se fait pas trop mal, mais voilà, après c'est une routine qui s'installe et une vie quotidienne où il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Alors pour les camps qui existent depuis beaucoup plus longtemps, je pense à des camps dans l'est du Congo, par exemple près de Goma, des personnes qui sont là parfois depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors bien sûr, là, il y a une petite vie qui commence à se créer aussi avec des petites activités. Il y a tel réfugié qui va installer dans sa tente un mini salon de coiffure ou une petite boutique ou des petites choses comme ça. Donc il y a une petite vie qui s'installe, mais en même temps, c'est extrêmement précaire, c'est sans perspective. Et on est quand même toujours aussi dans ce rythme. Mardi, c'est la distribution de ça. Mercredi, c'est la distribution de cela, etc. Donc voilà, le rythme est dicté en fait par l'organisation de l'assistance.
Quel est l'esprit qui règne? Est-ce qu'il y a comme un esprit de solidarité ou bien c'est du chacun pour soi?
Ça dépend très fort d'une situation à une autre. Il peut y avoir des tensions, parce que des tensions dans des zones conflictuelles, on peut les retrouver à l'intérieur du camp. Par exemple, dans les camps, justement au Congo, ou dans des zones de conflit, on va retrouver des personnes originaires de différentes régions qui peut-être ont été en conflit juste avant. Donc là, il faut être prudent avec ça, il faut essayer de gérer ça aussi. Les humanitaires aussi essayent d'organiser ces tensions, de les canaliser, d'essayer de faire en sorte qu'elles soient dépassées. Dans d'autres cas, il y a bien entendu, et très souvent aussi, de la solidarité, c'est-à-dire les familles qui peuvent s'entraider les unes les autres, etc. Mais on n'est jamais à l'abri de tensions, de violences, d'agressivité, de banditisme aussi, ça peut arriver. Mais les situations là varient vraiment beaucoup d'un camp à l'autre. Mais c'est clair que le désespoir entraîne une frustration qui peut tourner mal.
Concernant ce camp en Tunisie dont vous me parliez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué ou même choqué? Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter, à décrire?
Moi, ce qui m'a vraiment frappé au tout début, c'était vraiment la solidarité des populations accueillantes, c'est-à-dire la population tunisienne qui, dans les tout premiers jours, s'est organisée ou... Mais vraiment tant bien que mal, c'était très spontané, c'était des gens qui venaient de tel ou tel village, villages, parfois de très loin, qui avaient organisé des collectes dans leurs villages et qui venaient distribuer des trucs dans le camp. C'était magnifique, c'était une expression de solidarité. Je crois que ça a d'ailleurs beaucoup touché aussi les réfugiés qui arrivaient là, qui étaient perdus, qui étaient aussi encore dans la peur hein, de ce qu'ils avaient connu en Libye. Donc ça, c'était très frappant et on rencontre ça souvent au début. Et puis après, quand la durée se prolonge, quand le camp s'installe durablement, ça a un impact aussi sur la population hôte qui va voir là finalement des opportunités de travail qui vont lui échapper ou bien qui va voir une source de tension ou de danger peut-être aussi et une certaine hostilité qui peut s'installer vis-à-vis des habitants du camp ou de ceux qui y travaillent. Donc on est passé de l'expression d'une grande générosité comme ça à quelques semaines après des incidents sur la route qui menait au camp et du banditisme et voilà. Donc ça c'était certainement marquant. Puis sinon, ce qui est toujours touchant, ce sont les familles, quoi. Souvent des femmes seules, parfois avec des tout petits enfants et on se dit mais comment est-ce possible, quoi? Comment ont-elles trouvé la force de peut-être parfois parcourir 200-300 kilomètres dans un pays en guerre ou en guerre civile? Tous les obstacles qu'on peut imaginer. Et voilà, on voit là cette jeune maman avec deux petits-enfants qui sont malgré tout en bonne santé. Et on se dit, là, il y a une force humaine, une force de vie qui est vraiment frappante. Et puis, c'est assez dur de se dire, mais voilà, cette force de vie, là, elle va échouer en quelque sorte dans un camp. Et donc, on a là aujourd'hui encore, alors que moi, je vous parle de cette visite qui était au mois de mars, lors de l'installation du camp à Choucha, des familles comme ça, voilà, originaires de Somalie et qui sont là et qui attendent peut-être pour très très longtemps qu'elles soient un jour accueillies dans un autre pays, dans un pays tiers. Ça ne peut être que la seule solution pour eux.